Radio Caravane.
Radio Caravane.
Des saltos.
Des saltos.
Des saltos.
Au studio.
Radio Caravane. Des saltos au studio.
Bonjour à tous et à toutes. Après le voyage de la semaine dernière, Radio Caravane vous invite à découvrir les univers décalés de trois compagnies, venues du monde entier pour l'Européenne de Cirque et la Biennale des Arts Vivants. Escarlata Circus, Lyon Lyon, La Marche du Crabe. Et suivez le parcours Traversées Urbaines avec Maxime Donneau, responsable de l'action culturelle pour le Théâtre de la Cité.
Laissez-vous tomber à la renverse pour découvrir le mobile, un spectacle de la compagnie La Marche du Crabe qui vous fait retomber en enfance.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter, vous et votre équipe?
Je m'appelle Sandy Bessette, je suis la co-directrice de la compagnie La Marche du Crabe, qui est une compagnie de création de spectacles pour la toute petite enfance. Donc, on s'adresse aux 0 à 12 ans. On a certains spectacles pour vraiment les tout petits et d'autres pour les un peu plus vieux. Et je co-dirige la compagnie avec Simon Fournier, qui est mon collègue depuis sa création, et avec le spectacle mobile qu'on vient faire ici à la Grainerie. Deux artistes dans le spectacle aussi, et on travaille avec Théo Spencer, Valérie Doucet et Julie Choquette, et notre super technicien, gréeur, directeur technique Milan Saint-Pierre.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours?
Au Québec, pour avoir accès à certains programmes ou certaines subventions, il faut être un organisme. Nous, on est un organisme à but non lucratif. Et donc, on travaille beaucoup avec les jeunes en milieu défavorisé. On fait des actions de médiation culturelle. Je pense que ça s'appelle la même chose ici. Et on avait un spectacle qui s'appelle Remous Remis, qui est un duo de théâtre acrobatique, avec lequel on allait dans les écoles pour travailler avec les jeunes sur les relations de partenaires en mouvement et toute la question de relations de fratrie. Pour avoir accès à certaines écoles via certains organismes, il fallait être un organisme. Donc, au départ, c'est pour une question de fiscalité paperasse qu'on s'est enregistré, mais rapidement, ça a permis de développer notre réflexion sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette compagnie-là. On a ouvert la Marche du Crabe dans cette idée d'aller rejoindre une ouverture de clientèle qui soit autant chez les jeunes, chez les tout-petits, dans les différents milieux, pour aller rejoindre un public qui ne va pas naturellement au théâtre par lui-même.
Quelles sont les différences entre le spectacle des plus grands et les tout-petits?
Disons, nous, quand on crée, au départ, toutes les idées sont lancées sans se soucier de l'âge du public. Parce que les artistes avec lesquels je travaille, autant dans mes spectacles qui sont plus danse, cirque ou théâtre, parce que nous, on travaille dans les trois disciplines. Le co-directeur de La Marche du Crabe est comédien, moi, je suis danseuse, et les deux, on a touché au cirque. Mais donc, tous les artistes avec lesquels on travaille, la plupart n'avaient jamais fait, avant de travailler avec nous, des spectacles jeunes publics. Donc, eux, leur façon de créer est la même. Ils donnent leurs idées, on travaille autour de ça. Et moi, avec tout le processus que j'ai fait en création pour la petite enfance, c'est la plupart du temps juste une question de durée. Parce que plus l'enfant est jeune, moins sa capacité d'attention et de concentration est longue, ben c'est facile aussi d'y aller, d'allonger la concentration des enfants parce que le rythme actuel de notre société est tellement rapide qu'on leur apprend sans arrêt à diminuer leur capacité d'attention et nous, on travaille dans le sens inverse pour offrir des moments de contemplation. Je dirais ça. Et je dirais aussi par rapport au spectacle mobile, c'est la plupart du temps la première expérience au théâtre des bébés. Il y en a qui viennent, ils ont 3 semaines. Là.
Quels sont les obstacles rencontrés dans le processus de création?
Côté logistique, là, ben, il y a toute la question de financement, de pouvoir payer les artistes, les locaux, donc de trouver les fonds pour aller en création. Le mobile, c'est ma 5e création et c'est la première fois que j'ai eu du soutien financier pour le faire. Les autres, c'était de l'autoproduction. Et chez nous, l'intermittence du spectacle n'existe pas. Donc, quand t'es pas en train de travailler, il y a pas de revenus. Donc, on a tous, la plupart du temps, un emploi autre qui nous permet de payer nos comptes. Dans mon cas, moi, j'allais travailler pour ramasser de l'argent pour payer mes artistes en répétition. Il y a cet aspect-là qui fait qu'on a peu de temps, donc il faut être efficace, donc on fait des choix rapidement, peut-être qu'on expérimente moins longtemps, peut-être que les choix qui sont faits sont pas les meilleurs qu'on aurait pu, mais chaque processus a son chemin. Et là, je dirais, pour le mobile, les plus gros enjeux, c'était de trouver des artistes de cirque de talent, avec un haut niveau acrobatique, qui soient aussi des chanteurs parce qu'on chante, ou qui puissent développer ce talent-là ou le développe, et qu'on joue de la musique aussi. Donc, c'est des artistes de cirque multitalents, ce qui est quand même pas rien de trouver ces artistes-là. Et ensuite, il faut que ce soit des artistes qui sont intéressés à faire des spectacles pour les bébés. Donc, parfois, se faire pleurer dans les oreilles pendant toute la représentation, qui soit à l'aise avec ça, qui a envie de se lever à 5h du matin parce que parfois, on joue à 9h et que quand même, on est dans un niveau de technique et donc, il faut s'échauffer, il faut préparer le corps. En plus, il faut préparer la voix. Et comme notre compagnie, la Magic Crab, elle est petite, donc on n'a pas 300 dates par année à offrir. Donc, les artistes de cirque, souvent, ont des opportunités de travail très payantes et c'est souvent entre deux contrats où ils sont heureux de vivre l'expérience avec nous et de toucher à la petite enfance, mais ça crée une rotation dans les membres de l'équipe, ce qui est quand même bénéfique parce que tout le monde apporte quelque chose au spectacle et le spectacle continue de vivre. Mais c'est quand même compliqué de toujours devoir remplacer un ou deux artistes à chaque run de spectacle. Donc ça, c'est un des gros enjeux qu'on a eu. Et aussi de faire comprendre aux artistes que le bébé n'a pas du tout à être impressionné par une magnifique figure très dynamique et que justement, on a beaucoup diminué la technique, surtout dans les tissus aériens, parce que quand ça va trop vite, quand l'excédent de tissu, il s'en va dans tous les sens de façon trop dynamique, pour le bébé, c'est trop rapide. Sa perception, c'est beaucoup trop d'informations. Donc, on est vraiment dans une danse aérienne.
Les réseaux sociaux, on pourrait vous trouver?
Oui, marchedducrabe.com. Vous avez tous les spectacles et on met même les liens pour aller voir les spectacles intégraux parce que tant mieux si les gens font pareil comme nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que les petits bénéficient du maximum de création qui leur est adressée. Et sur Facebook, on a aussi la Marche du Crabe où on partage, nous, ce qui s'en vient dans notre parcours, mais on partage aussi ce que les collègues québécois ou autres font pour que les parents qui nous suivent sachent aussi que telle autre compagnie présente tel spectacle à tel lieu, à tel moment. Comme ça, on crée une espèce de réseau de gens intéressés par la pratique et non pas que par nos spectacles à nous. Voilà.
Plongé dans l'intimité de deux artistes qui explorent les limites du corps et du couple dans le décor d'un appartement, avec la compagnie Lion Lion et le spectacle Se Prendre.
Peut-être que tu peux te présenter.
Je suis Claudelle Doucet, je suis co-créatrice et co-interprète du spectacle Se Prendre, puis je suis à la barre de la compagnie Lion Lion, qui est un tout nouvel organisme qu'on vient de fonder, en fait, pour soutenir le projet de Se Prendre à l'origine, mais maintenant, on espère l'amener ailleurs aussi.
Tu pourrais peut-être nous parler de ton parcours?
Venant de Montréal, je suis un peu le pur produit typique, cliché de l'acrobate montréalaise. J'ai commencé à l'École nationale de cirque. J'ai fait la gym avant. J'ai commencé à l'École nationale de cirque avec les programmes pour enfants. J'ai fait ensuite le sport-études. Ensuite, j'ai fait le programme du diplôme d'études collégiales, le DEC, qui est le programme l'équivalent du bac ici, un peu en cirque. J'ai terminé à 18 ans, puis je suis partie travailler, en fait, dans les grandes compagnies québécoises, là, ce qu'on appelle un peu la Sainte Trinité par chez nous, là, un peu Cirque du Soleil, Cirque Éloise, les Sept Doigts, bon. Fait que je suis partie là-dedans, à l'origine, je faisais du tissu, de la contorsion, puis c'est ça, c'était pas nécessairement les esthétiques ou les types de spectacles qui m'interpellaient le plus, mais j'ai eu envie, dans un premier temps, de juste partir un peu à explorer le monde, puis un peu faire de la scène, puis avoir l'occasion de pisser ce qui s'est offert à moi. Moi, c'est vrai que je suis sortie de l'école dans un moment où il y avait un gros boom des compagnies québécoises à l'international, au début des années 2000, puis j'ai un peu profité de ça, je me suis un peu baladée partout dans le monde. Ce qui se passait dans ces années-là, c'est qu'on était appelé à travailler dans toutes sortes de contextes, des grands spectacles, en fait. Fait que j'ai fait ça pendant un long moment, ensuite je suis un peu revenue en Europe, puis à un moment, ça m'a un peu rattrapée après comme une petite décennie de spectacles de ce type-là. J'avais besoin d'autre chose pour me nourrir artistiquement puis humainement. Puis j'ai commencé un collectif en Belgique qui s'appelait la Compagnie du Poivre Rose, qui a d'ailleurs été en résidence ici à la Grainerie.
Et qui est en coproduction pour ce spectacle-là.
Ouais, qui est en coproduction de Se Prendre. Puis j'ai commencé à porter aussi beaucoup. C'est un grand truc pour moi de pouvoir comme m'éloigner des clichés qui étaient associés à la discipline du tissu puis de la contorsion spécialement dans le type de projet dans lequel moi j'avais été impliquée pendant longtemps, les spectacles plus commerciaux puis tout. Puis en commençant à porter, je m'assurais un peu de pas retomber dans ces rôles-là. Donc j'ai fait ça, puis ensuite j'ai commencé une démarche de mise en scène à la fin du Poivre Rose, puis je suis retournée habiter à Montréal aussi. Je suis retournée à l'université, j'ai commencé à travailler à l'École nationale de cirque comme metteur en scène, j'ai commencé à prendre surtout je me suis fait offrir des choses comme metteur en scène, ce qui m'allait parce que je commençais, puis ça me faisait plaisir à la limite d'avoir des commandes un peu pour me faire la main. Puis à un moment donné, j'ai décidé de lâcher cette idée d'avoir un parcours universitaire dans ma vie. Puis en lâchant ça, j'ai eu envie de d'un truc vraiment comme un projet un peu fantasme de faire quelque chose chez moi dans mon appartement puis d'avoir une relation vraiment comme intime à la création. Puis j'ai appliqué pour un programme avec Sopran en me disant que ça passerait jamais parce que sur papier ça avait l'air d'un truc vraiment trop hippie je sais pas. Puis ben là ben avec la c'est ça depuis un an et demi ben c'est comme parti puis ça fait boule de neige puis maintenant on a créé Lyon Lyon fait que je suis maintenant la présidente de Lyon Lyon.
C'est marrant, tu parlais de la Sainte Trinité.
Ouais.
D'avoir travaillé avec eux et là on se retrouve sur un spectacle en tout petit comité dans un appartement. C'est dingue en fait, c'est vraiment deux mondes complètement différents.
Ouais, ben c'est un peu en réaction aussi, je pense qu'il faut pas se le cacher. Se prendre, c'était un peu parallèlement peut-être extrême envie de décroissance liée à plein de choses, liée aussi au peut-être à des questionnements qu'on avait sur presque socio-économique, tu vois, de comment est-ce qu'on fait des spectacles, c'est quoi la commodification de l'art, c'est quoi le comment on est amené à tourner, à voyager, à toute l'espèce de rapport à l'argent puis à l'environnement. Tu sais, il y avait comme toutes ces réflexions-là aussi en parallèle. Puis encore une couche de plus, je dirais, c'est que moi, je venais commencer à faire de la mise en scène puis j'avais été très fort, très vite. Là. Les premières fois qu'on m'a donné des opportunités, moi, je suis partie vraiment comme à fond de train, puis je me suis ramassée peut-être 5 fois en 2 ans sur des projets à être complètement essoufflée. Puis se prendre, c'était aussi ça, c'est que je voulais faire un projet gros comme un vélo. Quand on voit une voiture, on sait qu'on peut pas le soulever, puis quand on voit un vélo, on sait qu'on peut le prendre, puis qu'on peut le manipuler, puis que c'est à échelle humaine. Fait que c'est un peu ça l'idée d'arriver dans un spectacle vraiment diamétralement opposé par rapport à toutes sortes d'autres projets dans lesquels moi j'avais été impliquée avant.
Donc, vous êtes là avec Cooper,
qui n'est pas là aujourd'hui.
Mais bon, qui est quand même là sur le spectacle.
Ouais.
Donc, pour se prendre, et qui est présenté comme une pièce acrobatique pour appartement. Tu peux nous en parler un peu?
Ouais. Se prendre, c'est un projet, c'est ça qu'on a débuté l'été dernier, avec Cooper, que moi j'avais rencontré sur la route, puis qui est un artiste qui m'intéressait beaucoup. On a aussi travaillé avec un regard extérieur qui s'appelle Félix-Antoine Boutin, qui est quand même très important de mentionner, qui nous suit pas en tournée, donc on l'oublie un peu, mais c'est vraiment notre co-créateur aussi. Quand je disais qu'on avait appliqué pour un programme tout à l'heure, on a fini par avoir la bourse, puis on s'est dit, on y va, on va faire de la recherche création. À la base, c'était vraiment ça le programme pour lequel on avait appliqué, c'était juste de développer un peu de vocabulaire, puis on l'a eu, fait qu'on s'est dit, moi j'ai viré ma coloc, on a mis des meubles à l'entrepôt, puis on avait un projet l'été dernier, du coup, de juste faire de l'exploration sur les thèmes de l'intime, du risque, dans le lieu domestique. Puis on est parti comme ça, très humblement, je dirais, à grimper un peu sur les coins, puis tout, puis à explorer l'idée de l'intime dans la création, à toutes les strates, en fait, dans le rapport au public, dans le rapport entre les co-créateurs, dans le rapport entre le spectacle, ben, l'œuvre. Maintenant, c'est vraiment rendu avec les autres aussi qui nous accueillent, puis avec les structures qui nous accueillent, parce que l'intime, finalement, elle traverse toutes les strates. Mais à la base, nous, c'était vraiment comme d'explorer l'idée d'une rencontre entre deux existences qui savent pas nécessairement comment elles se définissent elles-mêmes, qui savent pas comment entrer en contact les unes avec les autres, qui savent pas comment gérer les attractions, les résistances, comment est-ce qu'on se projette, comment est-ce qu'on fait des projets. Toutes ces espèces d'idées, mais plus abstraite ou plus large ou plus philosophique, en fait. Puis, en développant du vocabulaire autour de ça, beaucoup à partir d'impro, juste moi, Cooper, dans l'appart, après notre regard extérieur, qui nous dit un peu ce que lui voit là-dedans. Puis quelqu'un qui vient pas du cirque du tout, en fait, c'était super, parce que nous, on n'avait pas particulièrement l'ambition de faire une pièce très acrobatique. On avait envie de faire juste une pièce sur l'intimité et le risque. Pour ça qu'on l'appelle une pièce acrobatique, parce qu'on... Je sais pas si c'est du cirque, tu vois. Le cirque, je pense que c'est juste une petite partie des médiums qu'on utilise dans cette pièce-là, mais on avait juste, quand on avait une idée, on cherchait le meilleur vocabulaire pour le faire, puis c'est pour ça que des fois on parle, des fois on danse, des fois on joue, des fois on se grimpe dessus, des fois on se pète la gueule. Ben, si ça correspond, puis si ça dit les bonnes choses, si ça communique les bons états, ben, on utilise ça.
D'accord. Et du coup, comment est-ce qu'on peut vous suivre, enfin, savoir un peu l'évolution de tout ça?
Ben, écoute, il y a une page Facebook, Lyon Lyon, que j'essaie d'administrer avec... discipline. Puis sinon, on est aussi sur Instagram. Je pense que c'est Lyon Lyon se prendre sur Instagram. Déjà, je pense que la page Facebook, c'est le truc qui est le plus à jour au niveau des tournées, ouais.
D'accord.
Rencontre avec les deux clowns boxeurs de Escalata Circus pour le spectacle Pugilatus.
Radio Caravane.
Radio Caravane.
Des saltos.
Des saltos.
Des saltos.
Au studio.
Radio Caravane. Des saltos au studio.
Je m'appelle Jordi Aspa et je fais partie de la compagnie Scarlata Circus avec Beth Miralta, on est les fondateurs. Et je ne sais pas qu'est-ce que je suis exactement, qu'est-ce que j'ai fait comme métier, mais quand je sois adulte ou grand, je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux devenir.
Mon nom c'est Pietro Steiner, je travaille avec Scarlata Circus aussi, je suis acteur et je travaille avec différentes compagnies de théâtre, de la danse, de clowns depuis presque 40 années.
Mais surtout avec Beth, on est autodidacte, on a beaucoup travaillé dans la rue aussi, que maintenant on peut plus. J'aimerais bien faire une revendication sur ça. À Barcelone, c'est interdit faire des spectacles dans la rue. Et voilà, il y a beaucoup de villes maintenant où c'est interdit. Et moi, je trouve que c'est une bonne plateforme pour les jeunes qui commencent, et même pour pas les jeunes, mais que tu as envie d'essayer des choses, tu essayes directement avec le public. Et si le public aime, il te paye ou il te remercie. Je trouve que c'est un échange très direct et très sincère. Mais bon, maintenant, c'est interdit. Le pouvoir du capitalisme et de la rue et l'espace public et tout ça, c'est fini un peu. Maintenant, il y a des lois très sévères.
Par rapport à votre titre de spectacle, Pugilatus, pourquoi avoir choisi le nom en latin ?
Non, parce qu'on aimait bien, non ?
Bon, Pugilatus, c'est... Bon, on aime le nom de les deux mecs qui se retrouvent dans un ring. C'est un peu la métaphore de la vie, la lutte pour chercher notre rêve. Après, Pugilatus, c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire de deux amis ou deux frères même. Ils se rappellent un peu de tous les passages dans la vie. Ils se retrouvent un peu dans les histoires qu'ils ont marquées dans la vie. Ils cherchent l'amitié, cherchent la connexion. Et c'est un spectacle très sensible sur ça.
Non, que c'est né d'un... On sortait de voir un spectacle tous les deux ensemble et une copine m'a dit « Jordi, tu es un peu plus fort, costaud, pour pas dire gros », elle m'a dit ça. Et il y avait mon ami Pierrot à côté, il a sauté tout de suite. Oui, parce que maintenant, je lui fais faire un entraînement tous les jours, je l'entraîne. Et voilà, c'est fini comme ça, la fille. Ah oui, super. Et on est partis tous les deux, on s'est regardés, on a dit « Tiens, ça c'est un bon sujet pour un spectacle. Un entraîneur et un entraîneur, quelqu'un qui un pugil, quoi. Et on a commencé par la boxe et on a cherché un nom qui sonnait un peu de boxe et on a trouvé que Pugilatus, c'était... De toute façon, la compagnie, on aime beaucoup les titres comme ça. Il y avait un autre spectacle qui s'appelait Velcro Propulso aussi, que ça ne veut rien dire. Et on trouvait que Pugilatus, c'était très juste pour ce qu'on proposait.
Pour vous, un clown, c'est quoi?
C'est une bonne question. Bon, un clown, c'est quelqu'un qui défie un peu les sens communs, qui défie les lois, qui défie les pouvoirs. Pour moi, un clown, c'est un poète. C'est un des vrais poètes dans la vie. Après, ce que j'ai dans la tête d'un clown, c'est moi qui l'ai dans la tête. Peut-être que ce n'est pas le même que vous avez ou que tout le monde. Mais pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un très, très poète.
Très connecté avec la liberté. Et aussi, il est dehors de tout. Bon, il est comme un enfant, non? On dit toujours, il est très libre. Il veut faire la révolution aussi. Et des fois, c'est pas facile, mais ça, c'est l'intention. Avec le corps, avec les mots, avec la voix, avec l'esprit, les sentiments.
Ben, merci beaucoup pour ces belles réponses.
Et bon spectacle.
Bon spectacle, oui.
Voilà.
Merci beaucoup.
Maxime Donneau nous parle du parcours Traversée urbaine proposé par le Théâtre de la Cité dans le cadre de la Biennale des Arts Vivants. Retrouvez bientôt notre reportage complet sur radiocaravane.net.
Je m'appelle Maxime Donneau, je travaille au Théâtre de la Cité et je suis en charge des relations avec les publics, c'est-à-dire toutes les actions de médiation et d'ouverture qu'on peut faire au théâtre pour faire en sorte que la programmation et toutes les activités du lieu soient accessibles au plus grand nombre.
Et on parle de relations publiques, de oui. médiation. En quoi ça consiste à...
Alors, relations avec les publics, ça veut dire tout simplement faire le lien entre ce qui se passe dans le théâtre avec l'extérieur. On pourrait dire que on essaye de porter le message du théâtre et des artistes à la direction de différents publics, et surtout des publics qui ne sont pas au départ sensibilisés au théâtre, c'est-à-dire pour qui venir ici, venir voir des spectacles, peut représenter une difficulté, voilà, quelque chose qui peut même susciter de l'appréhension et de la peur. Et nous, on est à cet endroit-là, c'est-à-dire comment on fait en sorte que ce soit simple de venir chez nous. Voilà, comment on peut simplifier les choses et ouvrir et faire en sorte que les gens ils viennent comme s'ils venaient au cinéma, finalement. Ce sera aussi simple que ça. Créer quelque chose qui est de l'ordre de l'intime entre le public et le lieu. C'est-à-dire que c'est un théâtre public donc qui fonctionne avec des subventions de différentes collectivités et de l'État. Donc notre travail, c'est comme on a cette mission de service public, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes et le plus de personnes, aussi diverses soient-ils, quelles que soient les situations, puissent venir chez nous.
Biennale, qui a l'initiative de ce projet ?
Donc la Biennale, au départ, c'est une initiative du Théâtre de la Cité. Ça faisait partie du projet de Galine Stoef, l'artiste directeur de ce lieu, quand il est arrivé il y a un an et demi à la tête du théâtre. Il avait vraiment le souhait de pouvoir créer un événement autour des arts de la scène, donc à la fois le théâtre, la danse, le cirque, quelque chose qui soit un peu pluridisciplinaire et qui soit à l'échelle de la métropole, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas seulement des lieux du centre-ville, mais qui puisse aussi se mener avec des communes aux alentours de Toulouse qui font partie de la métropole, et de rassembler comme ça des structures qui avaient envie de tenter l'aventure. Mais alors surtout, ce qui est important, c'est qu'on soit à l'initiative de ce projet-là, mais que par contre, sa mise en œuvre et sa construction soient partagées avec le plus de monde possible et de la façon la plus horizontale possible. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui prenons toutes les décisions. Chaque décision est discutée et validée en collectif.
Dans la Biennale, il y a ce qu'on appelle les parcours d'action culturelle. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ?
Alors, comme cet événement rassemblait des formes artistiques différentes, on a eu l'envie de croiser aussi des publics. C'est-à-dire que chaque partenaire a son public, on va dire, à des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui ont l'habitude de venir dans leur lieu, etc., quand c'est des lieux, en tout cas. Donc, on s'est posé la question de ben voilà, comment, dans le cadre de cette biennale, on pouvait, nous, faire quelque chose qui soit différent, faire un peu un pas de côté. Et par exemple, à notre endroit, au Théâtre de la Cité, comment on pouvait inviter des gens qui étaient habitués à venir chez nous à aller ailleurs pour à la fois découvrir des lieux, mais aussi découvrir des formes artistiques que les personnes n'avaient pas forcément l'habitude de voir.
Avec toujours un fil rouge ?
On a essayé de thématiser. Donc on a créé 7 parcours, donc à la fois des parcours qui incluaient de la pratique artistique, par exemple. Donc là, c'est le parcours « Pas de côté ». Où on a invité des personnes à la fois pratiquer du trapèze volant pendant une après-midi, aller voir un spectacle de cirque, aller voir un spectacle en langue des signes, faire un stage de théâtre en langue des signes française aussi. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir associer à la fois le fait d'être spectateur et d'être dans la pratique. C'était un peu l'idée de ces parcours-là qu'on a thématisé, mais l'idée, c'était que ce soit vraiment pluridisciplinaire, que ce soit le reflet tout simplement de la Biennale et de la programmation.
Et on voit qu'il y a vraiment cette ambition de peut-être plus populariser encore le théâtre qu'il ne l'est déjà. Selon toi, quelle devrait être la place du théâtre ?
Ah, c'est une belle question, parce que le théâtre a toujours tenu une place importante, évidemment, ben, voilà, dans ma vie, mais je pense que au-delà de ça, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être touchées par une œuvre artistique, quelle qu'elle soit. Bon, là, en particulier, on parle de théâtre, donc par le théâtre. Je trouve que c'est un endroit de rencontre unique, le théâtre, parce que, en fait, c'est l'occasion de croiser des gens très différents, qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par une œuvre, qui parfois sont déroutés, parfois sont surprises, parfois sont émus aux larmes, parfois sont dans des positions un peu plus, pas de rejet, mais en tout cas, une mise à distance. Et en fait, le théâtre, c'est aussi l'expression de notre esprit critique, c'est-à-dire qu'on apprend. On voit des œuvres, et puis on en parle, et c'est à ça que sert le théâtre, c'est aussi être surpris, aimer, s'émouvoir, mais c'est aussi mettre en œuvre ce qu'on pense, notre capacité de jugement. On pense souvent que pour aller au théâtre, il faut être cultivé, il faut savoir plein de choses, mais c'est pas du tout vrai. Il faut se faire confiance, en fait, il faut faire confiance en notre jugement, et toute personne, même si elle n'a pas l'habitude d'aller au théâtre, peut venir voir un spectacle. Et après, il faut juste faire le pari avec nous de voir des choses qui vont peut-être vous surprendre, mais que vous aurez le libre arbitre de critiquer, de juger, de questionner. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Donc pourquoi est-ce que le théâtre c'est important dans la cité ? Ben évidemment, je pense à la jeunesse aussi, aux jeunes aujourd'hui. Je pense que par le théâtre, ils peuvent entendre des paroles un peu différentes de ce qu'ils peuvent entendre dans la vie de tous les jours. Et je me dis que peut-être il y a une parole qu'ils vont entendre un jour qui va résonner dans leur tête d'une manière différente. Peut-être que ce ne sera pas tout de suite, peut-être que ce sera quelques années après, mais il y a quelque chose qui va peut-être exister à partir de là.
Pour finir, où est-ce qu'on peut trouver justement des informations sur la programmation, sur le théâtre ?
Pour la Biennale, il y a un site internet qui s'appelle labiennale-toulouse.com. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les informations. Sur Facebook, évidemment, ou les différents réseaux sociaux, on retrouve des infos. Et le Théâtre de la Cité, il y a aussi un site internet, théâtre-cité.com. On a un journal également qui est distribué gratuitement et qui permet d'avoir plus d'informations sur les spectacles qui sont en train d'être créés.
Ouais, merci beaucoup.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et les interviews complètes sur radiocaravane.net. Et la semaine prochaine pour une nouvelle escale circassienne.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle.
Proposé par la Grainerie et les associations Médias Communs et Ivasam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.